Le train fantôme. Une série de Jean-Baptiste Diaz. Deuxième épisode. Jeux interdits.
Est-ce que tu te souviens du temps qu'il faisait ce 18 août 44 ?
Chaleur épouvantable, pas de vent. 37 à l'homme, moi. Au milieu des vignes, là-bas, à Châteauneuf, il devait y avoir 40. Hein. Et moi, je me trouvais dans cette maison, là. Puis, à un certain moment, le silence. Hein.
J'étais ici, à l'ombre des platanes. On prenait avec les copains le frais, là, on regardait passer les voitures. Et d'un coup, on a entendu une rumeur, là. Au virage, là-bas, on voit déboucher une troupe, elle tenait toute la route, et encadrée par des Allemands armés.
J'ai traversé la route ici, devant l'hôpel militaire, des officiers. Je les vois là, je peux toucher le capot. Hein. Je n'ai pas remarqué de signe SS. Par là, j'ai vu des femmes qui piétinaient. J'ai vu la colonne, le début de la colonne, ce n'était que des femmes qui se trouvaient là. Mais alors dans un état dépenaillé, épouvantable, mais j'étais quand même choqué, là je ne comprenais pas. Je suis arrivé au niveau de la maison de mes parents, j'ai vu que ça continuait sur des hommes. J'avais déjà croisé le premier fait de gendarme. Le second qui se trouvait là-bas m'a fait rentrer dans la maison. Ah, raus, raus.
Quand ils sont arrivés ici, les Allemands ont commencé à crier, nous faire ouf tous, et on est parti. Alors...
Il y avait une colonne de fait de gendarme qui marchait en regardant les prisonniers. D'autres colonnes, dos à dos, regardaient du côté de la population.
Mais je suis resté sur le pas de la porte entrebâillée. J'ai vu passer tous les prisonniers.
Ils étaient, je pense, par cinq.
J'ai dit, mon Dieu, papa, regarde ce qui passe là. Ils tenaient toute la route, vous voyez, ils étaient sur le terrain. Alors, on aurait dit des bagnards. On aurait dit des bagnards. Ils faisaient pitié même à les voir. Il y en avait, vous voyez, qui étaient vraiment sales. C'était un peu des guenilles qu'ils avaient. Hein.
Ici, j'ai très bien vu le képi du gendarme. J'ai très bien vu le curé. Là.
Dans les 700 voilà. Personnes qui marchaient, il y avait un curé, un gendarme et un facteur.
Il y avait un facteur. Mais c'est les prisons d'Orange que l'on vide. Pas possible, il n'y a pas de prison pour contenir tout ce monde-là. Ce sont peut-être des juifs, c'est peut-être autre chose. Puis il y en a qui disaient, mais il y a un curé, donc c'est pas des voleurs. D'autres disaient, il y a des gendarmes, encore plus. Les gens étaient troublés. C'était impressionnant, ouais, c'était vraiment impressionnant.
Ce 18 août 1944, Charles, 11 ans, et Joseph, 16 ans, sont sur la Nationale 7 qui traverse leur petite ville de Sorgues, dans le Vaucluse, pas très loin d'Avignon. Charles et Joseph voient passer plus de 700 prisonniers et prisonnières férocement encadrés par des soldats allemands. Direction, la gare de Sorgues, où un train attend ce sinistre cortège. On ne sait pas encore que ces prisonniers et prisonnières sont des déportés et que ce triste convoi ferroviaire portera bientôt le nom de train fantôme. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à vous dans le deuxième épisode de cette série autour du train fantôme. Une histoire terrible dont j'entends parler depuis l'enfance puisque, comme je vous le racontais au premier épisode, mon grand-père s'est évadé de ce convoi qui l'emmenait à la mort. Le reportage qui vous attend aujourd'hui a été enregistré à Sorgues en août 2014. 18 août 44, deux mois après le débarquement du 6 juin, trois jours après l'autre débarquement que les Alliés réussissent en Provence, c'est la panique pour la Wehrmacht qui évacue ses troupes hors de France pour les faire refluer vers l'Allemagne, dans une retraite qui, chez les soldats allemands, aura parfois des allures de débâcle et de panique. Or, au cours de ce 18 août 44, les mouvements de troupes allemandes qui traversent Sorgues s'interrompent soudain et laissent la place à une colonne très sévèrement gardée composée de plus de 700 déportés et 150 gardiens qui arrivent à pied donc depuis les vignobles de Châteauneuf-du-Pape sous un soleil de plomb et traversent la ville de Sorgues pour en rejoindre la gare devant des sorguais éberlués qui ne comprennent pas qui sont ces centaines de misérables dépenaillés, affamés, assoiffés, sales et exténués qui traversent leur ville en haillons. Ce n'est que des décennies plus tard que Charles, Joseph et les autres sorguais comprendront ce qu'ils ont vu ce jour-là. Mais au-delà des faits de ce 18 août 44, on va aussi, dans cette série d'émissions, vous raconter comment, après avoir sommeillé dans des mémoires pendant près d'un demi-siècle, ces événements enfouis dans le silence vont devenir de l'histoire avec un grand H, grâce au travail acharné et à l'obstination de quelques citoyens curieux et fondateurs de l'Amicale des déportés et résistants du train fantôme, dont Charles était. Mais avant de nous lancer dans le prologue de cette saga au long cours, avant de rentrer dans l'horreur de cet épisode de la déportation et des crimes nazis, je vous propose de replonger dans l'ambiance de la France occupée telle qu'elle a pu être vécue par un gamin et un adolescent. Certains l'ont peut-être oublié, mais la France de 40-44 connaît une féroce dictature fasciste, et avant de parler du train fantôme, il me semblait intéressant de poser le décor et l'époque, et d'écouter comment Charles, fils d'artisan, et Joseph, fils d'ouvrier, ont pu vivre cette sinistre période. Vous allez aujourd'hui entendre parler de l'occupation vue par un gamin insouciant, l'occupation comme on ne vous l'a peut-être jamais raconté. Si on prend le cas d'un garnement comme Charles, quand on n'est pas juif, si les parents ne sont ni résistants, ni communistes, ni pauvres, et qu'on ne souffre ni de la faim, ni des pénuries, car dans une petite ville pas très loin de la campagne, on arrive à se débrouiller pour manger quand on a un peu de sous, bah la guerre aura été pour Charles une occasion de rigolades et autres coups pendables. Du moins jusqu'à ce 18 août 44, où là, Charles ne rigolait plus du tout.
J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
De jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles. Vieilles chansons d'autrefois.
Au musée Galliérin, M. Lamiran vient inaugurer l'exposition des dessins envoyés au maréchal Pétain par les écoliers de France. Tous les petits ont voulu répondre à l'appel qui leur avait été adressé. Tous ont voulu montrer au maréchal leur ville, leur village, leur maison.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
On aime son pays parce qu'on aime son village.
Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème.
Parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes d'une vieille et glorieuse nation.
Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Ressaisissez-vous, venez à moi avec confiance.
Je t'ai gardé dans mon cœur.
Français, quiconque parmi vous participe au groupe de résistance compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles.
Vous voici donc en 1942 dans le sud d'une France désormais entièrement occupée par les nazis. De 40 à 42, on a entretenu l'illusion d'une zone sud dite « libre » ou « non occupée » sous contrôle d'un semblant d'État français, le régime fasciste et fantoche de Pétain. Illusion d'autonomie ou d'indépendance qui s'effondre en novembre 42 quand la Wehrmacht envahit le reste de la France après le débarquement que les Alliés viennent de réussir en Afrique du Nord. Les Allemands redoutent avec raison un débarquement allié en Méditerranée qui aura effectivement lieu 2 ans plus tard, le 15 août 44. Mais en 42, le vent a déjà tourné pour ces armées nazies jusque-là invaincues et que l'on croyait jusque-là invincibles.
J'ai dû me décider à donner l'ordre à l'armée allemande de traverser immédiatement la zone non occupée. L'armée allemande ne vient donc pas en ennemi du peuple français. Elle a nullement l'intention de gouverner dans ces territoires.
Elle n'a qu'un seul but, repousser toute tentative de débarquement anglo-américaine. Le 11 novembre 1942, signé Adolf Hitler.
En 1942, Charles Tessier est donc un petit garçon. Il est notre premier témoin de ce que fut l'occupation de Sorgues, et on l'a rencontré, nous, en 2014. Pour ce diable de petit Sorguet, et au moins jusqu'au 18 août 1944, le vaste bazar de l'Occupe va surtout fournir les occasions de 400 coups tordus et autres jeux interdits. Charles revoit parfaitement ce jour de novembre 42 où la Wehrmacht envahit sa ville de Sorgues. On le sait, certains et certaines furent sensibles au design de ces uniformes allemands si bien taillés. La fascination a aussi marché sur certains gamins.
Je me souviens très très bien, leur site de carte BMW, là, on aurait dit des soldats de plomb tellement qu'ils étaient bien rangés dans les camions. On était là, les gamins, évidemment, on regardait, nous, on se régalait d'aller voir passer. C'était quelque chose de nouveau, je n'avais jamais vu une telle discipline. On aurait dit qu'ils étaient tout neufs, très bien équipés.
Et vous, les gamins, vous trouviez ça épatant ?
Ah oui, oui, nous, toute la guerre s'est amusée, nous, ça nous a amusé. On s'est amusé, qu'est-ce que tu veux, c'est malheureux à dire, mais tout nous intéressait, on se fourrait partout. Alors, ils étaient malins, ils avaient déjà tout prêt, des panneaux de signalisation avec les noms. Ils clouaient contre les platanes ces panneaux de signalisation pour informer derrière l'armée qui arrivait derrière, l'avant-garde, ça, hein. Tout était organisé, on était tous étonnés. Ils déroulaient des câbles téléphoniques et passaient dans les arbres. On voyait qu'ils connaissaient le terrain. On ne s'approchait pas trop, parce que d'abord, ils n'ont pas beaucoup stationné. Ils descendaient. C'est qu'après qu'ils ont stationné.
Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit de tes parents ?
Ah ben, ils rigolaient pas, hein. Ils rasaient les murs. Ils avaient peur. Il n'y avait que les petits, ils n'avaient pas peur. Nous. On voyait que des gosses qui regardaient et quelques vieux qui grommelaient, qui rouspétaient, qui n'étaient pas très contents. Ils étaient atterrés, sidérés, blancs de peur, étonnés de les voir si fringants, tout neufs. Ils étaient nickel, rutilants. Voilà ce qu'on a vu, avec leur machin à chenilles qui passaient, les motos en tête, les BMW sidecar, les passagers qui faisaient des signes pour faire voir où il fallait que les camions tournent. Et ils allaient très vite, hein. Ils descendaient très 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 vite, ils ont passé dans Sorgues très vite. c'est que peut-être deux ou trois jours après qu'ils ont occupé des écoles. Alors ça, c'est l'arrière-garde qui a dû arriver, mais ceux qui étaient de l'avant-garde, ils devaient avoir dans l'idée de foncer sur Marseille, hein, d'aller très vite. Ah, ils n'envoyaient pas des biscuits, hein, comme les Américains à la Libération. Alors, pour nous, je sais pas, hein, c'était les Martiens, tiens. Voilà, on est arrivé des Martiens. Il y avait un peu inquiet, parce que d'entendre les parents comme ça, qui étaient outrés, quand même, ça nous travaillait, pour aller leur sauter au cou. Hein.
Les vieux, ils vous avaient pas parlé de la guerre de 14, non? L'Allemand, c'était pas l'ennemi héréditaire dont il fallait avoir peur?
Si, ils arrêtaient pas, ils rabâchaient tout le temps, tout à la même chose. Hein. J'avais des oncles, tout ça, je savais par cœur là, ce qu'ils allaient dire. Hein. Ça, c'était toujours pareil, l'un qui avait fait les Dardanelles, et l'autre qui avait fait... Et toujours, ça rabâchait. Au début, c'était intéressant, mais après, ça, ils attaquent sur la guerre de 14 encore. Hein. Et comme il se trouvait toujours des copains qui avaient fait la guerre de 14, ils se régalaient d'en parler. Ah, tu étais où, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'étais là. C'était des gens d'autrefois. Eux étaient malheureux, certainement, de voir ça. Hein. Parce qu'ils se disaient, on s'est fait trouver la paillasse pour ça, mais ça devait pas trop leur plaire. Hein. On nous avait dit surtout, ne mangez pas des bonbons, ne mangez pas de machin. Surtout, ils vont vous donner des trucs empoisonnés, enfin, quelque chose d'épouvantable. Ça nous intriguait. Des bonbons, ils ne nous en ont pas donné, ils n'en avaient pas. Ils nous en auraient donné, on les aurait mangés. Alors, ils sont arrivés dans le sorgue comme ça, ils sont stationnés dans les écoles. Oh, bonne maison, ça n'ira plus à l'école. Ils étaient consignés dans les salles de classe, ils se penchaient aux fenêtres. Alors, ils avaient des paniers avec une corde, ils descendaient depuis le premier étage, des paniers. Ils mettaient un peu de l'argent dedans et on allait chercher des bouteilles de limonade ou de bière s'il y en avait. Un brasseur qui n'était pas très loin. Alors, quelquefois, même, ils mettaient des pièces allemandes, alors évidemment, ça ne marchait pas. Mais enfin, ils mettaient des pièces françaises et on partait chercher des bouteilles de limonade. On leur ramenait les bouteilles de limonade. Alors, en cours de route, évidemment, on buvait un bon coup de limonade. On allait au ruisseau, on complétait la bouteille et on allait la remettre dans le panier et on se poêlait. Et les types, ils étaient tous contents. Ah, il y a quelques voyous de sorgue qui sont partis avec le pognon. Ils ne sont pas allés chercher de la limonade, mais quand ils sont revenus, ils ont reconnu. Ça gueulait. Là, le coup de la limonade, quand même, on se régalait bien. On en buvait quand même bien la moitié de la bouteille, et l'autre au ruisseau, qui était quand même pas un bon ruisseau, un peu dégueulasse. Et les Allemands, ils se régalaient. Ah, il y avait la limonade. Et c'était que des garçons hein, qui faisaient ça, les filles. On n'en voyait pas, les filles. Elles n'ont rien vu. Tu interroges une fille sur la guerre, une gamine qui avait mon âge, je te dirais qu'elle n'a rien vu. Hein. Janine, ma femme, elles n'ont rien vu. C'est que les garçons étaient libres, on se promenait partout, chapardés. Ils n'étaient pas mauvais bougres, hein. Ils n'étaient pas mauvais bougres. Alors il y avait une grande salle de classe, je vois, c'était ma classe au rez-de-chaussée. Ils avaient mis sur le drapeau un grand drapeau allemand. Je disais toujours à Loulou, mon copain, le jour où ils partiront, ce drapeau, il nous le faut. Hein. C'est vrai qu'à la Libération, on n'a pas pu choper le drapeau, ils l'ont brûlé, ils l'ont déchiré. On aurait eu un beau trophée. Il y avait pas mal de parachutistes stationnés à Sorgue parce qu'ils allaient s'entraîner à l'aéroport d'Avignon, à Châteaublanc. Ils allaient sauter en parachute les jours où il y avait du Mistral. Ils revenaient tous avec des pattes cassées et tout ça. Ils n'étaient pas trop malins. Ils avaient leur camion caché sous les arbres dans Sorgue, le parc municipal. Et nous, on allait les voir, les types, on regardait, ils se rasaient. Comme ça, en public, ils se mettaient torse nu, ils avaient des t-shirts là, avec l'aigle et la croix gammée. Ça, on n'a jamais pu un chaparder. Hein. On aurait bien aimé un chaparder. Mais ils étaient gentils, alors à Sorgue, personne n'a crevé de faim parce qu'il y avait des jardins, il y avait quand même des gens qui pouvaient aller s'approvisionner dans les campagnes, plus ou moins. C'est pas comme dans une ville où ils ont sauté. On ne peut pas dire que nos parents nous ont mal nourris, on a bien mangé. Mais nous, alors, on leur demandait du pain. Ils devaient s'imaginer qu'on ne devait pas avoir du pain. Alors ils sortaient du pain, on aurait du pain d'épices. Nix brut, j'ai retenu. Alors ils coupaient des tranches fines, là, comme du pain d'épices. Alors c'était pas bon. Hein. Mais vous êtes fous de manger des trucs comme ça, nous disaient les parents. À la maison, vous ne voulez rien manger, vous allez manger du pain chez les Allemands, bande de petits couillons, que c'est même pas bon. Les vieux disaient c'est du pain caca. Ça, c'était une expression des gens de la guerre de 14. Mais ouais, c'est le pain caca.
Est-ce que ton père, ça lui faisait plaisir ou est-ce qu'il était pour que tu ailles traîner du côté des cantonnements allemands et...
Non, non, mais qu'est-ce qu'il travaillait dans la journée, le jeudi, si on n'était pas à l'école. J'allais voir mon copain, moi. Il pensait qu'on était tranquille, étant donné que son père était un ancien gendarme. Alors il se disait, bon, il doit bien les surveiller, mais on était des filous. Il y avait une vieille usine de garance, justement. On se mettait plein de poussière. On sortait tout rouge de là-dedans. Alors on leur fauchait du savon pour se laver, pour pas arriver sale à la maison. Ils laissaient traîner des petits morceaux de savon, comme ils n'avaient plus du savon. Et eux, ils en avaient. Alors on raflait tout le petit morceau de savon qui tournait, on allait au ruisseau, on se lavait. Les ruisseaux sont là, l'eau n'était pas polluée. Alors on se lavait, tout ça, et on se cachait. Alors ce qu'on chapardait, on allait le cacher dans cette usine de garage. On est rentré par effraction dans leur chambre, ils n'étaient pas là. Si on s'était fait prendre...
Avec Loulou, vous êtes rentré par effraction dans un cantonnement.
Là où ils logeaient, dans leur chambre, petit dortoir, là, c'était dans des locaux qui appartenaient à la mairie, désaffectés. Ils en avaient fait des petits dortoirs et ils avaient toutes leurs frusques, tous leurs habits. Et nous, on rentrait par effraction. Qu'est-ce qu'on faisait? On piquait des balles dans les chalis. Là, il y avait toujours un petit trou. On rentrait la balle dans le chalis, clic, 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 on la tournait. Oh, facile de dessertir une balle. On mettait toute cette poudre dans une boîte. Après, on remettait la balle. Le chargeur à sa place, quand ils ont dû aller au tir ou je ne sais pas quoi, ben c'était que l'amorce qui claquait. Hein. Mais on en a dû sortir, oh, je pense bien une cinquantaine en tout, ah oui.
Retirer le projectile de la douille, vider la poudre qu'il y avait dans la douille.
On enlève la balle, on enlève la poudre et puis on remet la balle à sa place. Dans les chargeurs, le type il ne sait pas, hein, et la balle ne part jamais.
Et pourquoi vous faisiez ça dans votre tête? Vous vous racontiez quoi que, gamin? Vous faisiez de la résistance ou c'était pour faire les couillons?
Oui. Tout le monde croyait faire de la résistance du moment qu'ils emmerdaient les Allemands. Même les types, ils faisaient du marché noir, ils se prenaient pour des résistants. Oui, étant donné que c'était interdit, mais ils se remplissaient plein les poches. Nous, c'était pour faire des jeux stupides. C'est-à-dire aller enflammer la poudre et se brûler la figure. C'était marrant, quand même. On faisait une traînée, on en mettait un peu dans une boîte de cirage. On n'en mettait pas beaucoup. Et mon ami, pouf, ça brûlait bien.
Vous vous seriez fait attraper en train de saboter des balles?
Je ne sais pas comment ça se serait passé. Étant donné qu'on était quand même jeunes, qu'on n'avait que 10 ans, certainement les parents auraient été appelés. On aurait été tensés, ça c'est sûr. Et je vois la tête de mon père ou du père Roger, un ancien gendarme qui était sévère comme tous, s'il avait su ça, ouh là là. Je me souviens, il y avait un Luger de pendule.
Alors un Luger, c'est un revolver allemand. Ouais.
Moi, je voulais le piquer. Je disais à Loulou, ah, toi qui es plus grand, attrape-le. Alors Loulou m'a dit, non, chat, ne touche pas ça. Il avait quand même, il était plus costaud que moi. Mais je t'interdis de toucher cette arme. Il savait ce que c'était des armes, lui, Loulou, parce que son père avait été ancien gendarme. Alors il savait qu'il ne fallait pas toucher les armes. Voilà. Ah, mais sinon, je l'aurais eu comme trophée. Mais le type, quand il serait revenu, qu'il n'avait plus son Luger, là, peut-être que... Les soupçons se seraient portés sur nous, parce qu'on était toujours dans la cour, là, autour d'eux. Alors, il serait bien dit qu'il y avait quelque chose de comme ça. Alors, il y avait l'harmonica qui traînait. Une jolie harmonica, là. J'ai dit, Loulou, ça, faut se le faire, mais il faut pas le sortir de la piole. Hein. On va aller le cacher dans un trou, sous les escaliers, à la Libération, mais on allait chercher. On savait donc bien qu'elle serait la Libération, mais on croyait vraiment qu'il partirait. Hein. On avait le moral, hein. On entendait bien les parents qui disaient, ils finiront même par partir. Alors on avait caché l'harmonica. Et le type qui a dû perdre son harmonica, il a dû peut-être se disputer avec ses copains, je ne sais pas. Mais... Nous, de quelques jours, on ne s'est plus fait voir. Hein. Et à la Libération, on était allé chercher l'harmonica. Alors là, on était content. Hein. On avait un trophée, mon ami. Ça, personne n'avait ça. Hein. Voilà, on faisait des coups comme ça. Des choses pas d'âme. Il y avait un tas de pommes de terre. Parce qu'ils mangeaient, ces mecs. Hein. Il y avait une cuisine roulante, mais ils mangeaient. Tu sais, hein. Les gens qui mangent mal en ce moment, les Allemands, alors, tu vois, pendant la guerre, ceux qui devaient bouffer. Des pommes de terre, mais qui devaient venir d'Allemagne, elles étaient laides comme tout, toutes noires. Il paraît que c'est une qualité. Alors on avait fait une canne avec un crochet, et on les faisait venir comme ça, on les tirait à plat ventre, et les tirait, on avait rempli un panier. Alors moi, j'en porte pas chez moi, parce que j'ai dit, porte-les à ton père, tu vois. Oh, punaise, le père, il y a dit deux mots, à Loulou. Alors j'ai dit, Loulou, mais qu'est-ce qu'il en a fait ton père? Ah, mais il m'a dit, mais il en a quand même fait cuire. Voilà les petits tours qu'on faisait. Alors c'était intéressant parce qu'ils avaient des revues, là, Signal, des images toutes en couleur, un genre de Paris Match. Il y avait des images de guerre extraordinaires. Parce qu'il n'y avait pas de photos en couleur comme ça. Il n'y avait que les Allemands qui avaient des photos en couleur. Et là-dessus, il y avait des avions. C'était des photos magnifiques. Mais mon père ne voulait pas que je me trimballe avec un bouquin comme ça.
Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. Andromaque se parfume à la lavande.
Est-ce que tes parents écoutaient Radio Londres ?
Ah oui, oui. Mon père, il avait un poste tout cassé, la carrosserie toute cassée. Alors, tout ça pour dire s'il se fait choper. Vous voyez bien que c'est un vieux poste, il ne marche pas. Pour tourner les aiguilles, il fallait tourner le condensateur variable avec le doigt dedans. Et alors on écoutait Radio Londres, mais ça c'était plutôt vers la fin, dans les deux dernières années. Là. On écoutait Radio Londres, alors tous les messages là, personnels, tout ça, je me souviens de très bien. On les aura les boches, etc. Pierre Dac qui parlait, Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Ah, on était ravis.
Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de pétains.
Alors on écoutait ça en catimini. J'écoutais ça qu'avec mon père. Mon père, là, il n'y avait personne à droite, ma mère un peu, mais il m'autorisait à écouter. Je ne parlais pas. Pourtant, j'ai bonne langue. Hein. Mais jamais je disais à mes copains que j'avais écouté Radio Londres. On l'a fermé. On nous avait appris à nous taire. Hein. Ça, c'est sûr qu'on ne racontait pas nos histoires. Hein.
Tu m'as raconté il y a quelque temps une anecdote où tu es allé chanter une chanson devant un Allemand et cette chanson, elle venait pas de nulle part.
Bah, j'avais dû l'entendre à l'école parce que des gamins... Leurs parents avaient dû l'entendre, alors tout ça, c'était Lili Marlène. Je me rappelle, ça se terminait, nous avons les Russes au cul. Moi, je passais devant la sentinelle, c'était un bon vieux, il devait avoir au moins 60 ans. J'allais chercher du lait, là, je t'ai fait voir, là, où on est passé tout à l'heure. L'endroit, ça n'a pas changé. Quand je passais, je lui chantais cette chanson, le type, il applaudissait, il ne comprenait pas le français. Devant la caserne, un Allemand montait la garde, tout en pleurnichant. On lui demanda ce qu'il a, il répondit tout simplement « Nous avons les Russes au cul, nous avons les Russes au cul ». Ça doit être de Pierre Dax. On chantait tout ça à l'école, tout se disait, on savait tout. Les conneries, on les savait.
Donc ton père t'avait dit surtout de ne pas parler que vous écoutiez Radio Londres, mais par contre, t'allais chanter ça à un Allemand.
Ah oui, 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 je chantais ça, je me régalais. Ah là, je me régalais. Je devais y aller tous les deux jours chercher le lait à cette ferme. Il me guettait, le gars, il me reconnaissait. Et alors il attendait. Il était tout content. Alors moi, j'allais chercher les petits copains, ils étaient plus jeunes que moi, les petits espagnols de la laiterie. Il allait, venez, on va chanter Nelly Marlène au vieux là-bas, à la sentinelle. Alors il venait avec moi, tout le monde se pouffait de rire. Et le type, il ne comprenait pas, il était content, le pauvre diable. T'es vieux, hein. Ouf.
C'est pas lui que t'appelais Bébé Cadom.
Alors c'était un autre, ça. C'était dans le bâtiment où on avait piqué l'harmonica. Salut Bébé Cadom, bonjour Bébé Cadom. Il comprenait pas un mot de français. Il était tout content. À tel point que je me suis demandé si ces intonations de Bébé Cadom, j'avais demandé à mon cousin qui vit en Allemagne, est-ce que c'est dans ça a une intonation de quelque chose de sympathique. Si tu cries Bébé Cadom devant un Allemand, ça veut dire quelque chose de sympa, je sais pas. Ça a une intonation. Il m'a dit non, pas du tout, alors, je ne sais pas. Alors, il était content. Et puis, je sais que tous ces parachutistes sont partis aller se battre en Sicile. Là, je crois qu'ils ont tous passé la casserole.
Tu m'as aussi raconté qu'il y avait aussi des Italiens.
Ah oui, oui, oui. On avait l'habitude de voir des Allemands, mais ils sont arrivés bien après, les Italiens. Ils étaient aussi très bien mis, rutilants. Les Italiens sont très chics, hein, dans leurs uniformes. Et ils avaient la plus beau chapeau. Bon, ils venaient à un bistrot, ils allaient directement dans les bistrots. Hein. Les Allemands ne traînaient pas trop dans les bistrots, mais alors les Italiens, eux, ils avaient envahi tous les bistrots de Sorgue. Nous, on était derrière une grille de l'hospice de Sorgue, en face du bistrot, à 30 mètres du bistrot, de l'autre côté de la Nationale 7. On leur criait « La plombe, la plombe !» Alors ils étaient ravis, ils étaient contents, ils s'approchaient de nous. Et c'était des Alpines, ce qu'on appelle des Alpines. Et cette armée existe toujours en Italie, puisque c'est les soldats fétiches. Hein. Mais moi, j'avais entendu, je ne sais pas, dans une discussion avec mon père, avec des amis, « Ah, sont arrivés les babes, ils sont acquis !» Il y avait Nico Corin. Et j'avais encore entendu une connerie. Alors, il s'approche, les gars, « la plombe, ah, que belle, que belle !» Alors, il était content. Alors, je lui dis, « Mussolini, a mangia la pola, et toi, tu fais la ceintura, et tu te mets la plombe au capera. » Oh, non, non, non. Ils étaient fous. Ça devait être deux sous-officiers. Ils ne pouvaient pas nous choper derrière une grille, mais avec des pointus, tu pouvais courir. Avant que tu les franchis, tu te estropiais. Il fallait aller faire 200 mètres pour venir nous choper. Et tu penses, si on s'est taillé, on est monté dans un... Dans un marronnier, on avait un marronnier qui était creux en haut, mais il était haut. Il était bien à 15 mètres d'eau. Et là, on avait toutes nos affaires, des cigarettes, tout ce qu'il ne fallait pas, quoi. Des lance-pierres, tout ça. On s'est mis là-dedans, on a attendu le mouvement toute la journée. Ils nous cherchent encore, les Alpines. Oh, quelle rigolade. C'est mon copain que j'ai retrouvé 40 ans après. Il m'a dit, tu te rappelles ce que tu as dit aux Italiens? Ah, je dis, je m'en souviens plus. Mais lui, il s'en souvenait. Parce qu'il avait tellement dû avoir peur qu'il s'en souvenait encore. Alors pour les tours de col, j'étais bon. Il était presque le double plus grand que moi, tu vois. On aurait dit Laurel Hardy, tous les deux. Et pour les conneries, c'était moi le plus fort. Alors il me suivait, mais il mourait de peur. Ah ouais, alors des choses comme ça, tu vois, on se souvient bien.
Vous êtes ici dans le prologue de cette histoire du train fantôme. Et pour bien mesurer l'horreur et l'absurdité de cette histoire, c'était peut-être bien de la commencer par une insouciante partie de rigolade avec Charles, pour qui ce 18 août 44, la guerre a brusquement changé de visage pour devenir une chose grave et dangereuse.
Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
Charles Trenet, notre chanteur fil rouge pour entrer dans l'incroyable et épouvantable mystère du train fantôme qui vous amène à présent dans le Vieux Sorgue, un quartier populaire qui date du temps où les papes résidaient à Avignon, qui n'est qu'à 10 km de là. Vous allez maintenant faire la connaissance de Joseph Cortés y Martí, modeste ouvrier français et petit-fils d'immigrés espagnols qui vous reçoit chez lui, dans son petit appartement d'une rue typique du Vieux Sorgue. Contrairement à Charles, qui était plus jeune et fils d'artisan, Joseph est lui déjà presque un jeune homme issu de la classe ouvrière. Ce 18 août 44, Joseph, qui a 16-17 ans, devient non seulement témoin, mais aussi acteur de cette histoire du train fantôme. Une aventure que Joseph a tue pendant des dizaines d'années, et même bien après que les couples Sylve et Tessier ne se soient lancés dans l'aventure de la résurrection de cette histoire oubliée. L'occupation, Joseph s'en souvient lui aussi, comme si c'était hier.
Vous n'avez pas connu ce moment et je ne vous souhaite pas de le connaître. Je m'en rappelle d'ailleurs, puisqu'à l'école, à ce moment-là, on nous faisait chanter Maréchal nous voilà. On a chanté, hein. Et ça faisait partie de la leçon, c'était la leçon d'histoire. Hein.
On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. Tu sauves la patrie une seconde fois. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France.
Pour nous, c'était le programme de l'école, voilà. Cet âge-là, on ne pense pas, hein. On était insouciants. On a eu chanté la Marseillaise aussi, la même chose après, hein, voilà. La Marseillaise, on la chante plus volontiers, voilà.
La patrie, prenez-toi,
Maréchal, nous voilà.
Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes.
Frappée directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
La restriction, on était en Miron, ça a été 41. Ça a été l'époque où à l'école on commençait à nous distribuer, on nous donnait la petite tranche de pain en après-midi. 41-42, ça a été l'époque la plus terrible pour la scission ici. C'est là d'ailleurs qui s'est déclenché vraiment le marché noir. Hein. Je peux vous dire ce qu'on mangeait en topinambour, rue Tabaga, la betterave des vaches, bouillie. Hein. C'était notre seule nourriture qu'on avait à ce moment-là. Nous, les jeunes, on avait droit à un peu plus de pain. 300 grammes de pain, ce qui paraît énorme actuellement lorsqu'on mange une baguette. Mais 300 grammes de pain, c'est un petit morceau à peu près comme ça, tellement qu'il était assez. On le mangeait parce qu'il fallait nourrir, mais oui, c'était vraiment un fait.
Pareil qu'il n'y avait pas que de la farine dans le pain.
Ah, mais je ne peux pas le détailler. On aurait dit plutôt du plomb qu'on aurait mangé, vous voyez. C'est pour ça que maintenant, quand j'y pense encore et que je vois une baguette maintenant de 200 grammes, à ce moment-là, ça aurait été un festin pour nous. Les Allemands, on les a connus quand ils ont passé la ligne de démarcation ici.
En 42.
Oui, c'est ça. Ça a été là qu'on a commencé à les connaître, moi, ici.
Et la première fois que vous les avez vus?
Ça n'a fait ni chaud ni froid, hein, vous voyez. Ce qui nous a fait sentir l'occupation, ça a été... Ça nous faisait bisquer. Ils faisaient un peu trop voir leur bien-être, vous voyez. Ils étaient assis et ils mangeaient, ils sortaient leur paquet de pain ou de charcuterie et ils avaient l'air de nous narguer à... En mangeant, oui, voilà, c'était ça. Ils étaient plutôt arrogants.
Quand les Allemands sont arrivés, vos parents, ça n'a pas dû leur faire plaisir.
Écoutez, mon père, c'était le vrai républicain, je ne peux pas vous dire que ça. J'avais un oncle qui était ici artisan, maçon. Il est parti volontaire à la guerre d'Espagne et il a été porté disparu sur les grands combats de Teruel. Enfin, ma famille, c'est une vraie famille de républicains. Hein. Pas de politique, mais de républicain.
Est-ce que vos parents écoutaient Radio Londres?
On n'avait pas de radio. Mais je peux vous dire une chose, c'est que mon papa, pendant l'occupation, ici, il y avait le Machiavelli. Dans la cour, il y avait un petit fenêtron, il avait deux grenades et la mitraillette, ça faisait partie du groupe aussi. La libération de Sorgho. Il y en avait, vous voyez, ils étaient armés, mais sans être maquis. Vraiment le résistant de l'ombre. Ils étaient armés pour une insurrection, mais personne n'en parlait.
Et ces deux grenades?
Des quadrillés, elles étaient dans une boîte à peu près longue comme ça, je m'en souviens. Je les ai entrevues, moi, une fois. Et devant, il y avait des outils. Mais jeune, moi, je bricolais aussi, j'avais tombé sur ça. Et que mon père m'avait dit, tu touches à rien de ça, voilà.
C'est votre père qui planquait ces armes-là?
Oui. Enfin, il faisait partie du groupe de résistance sur Sorgue, mais sans faire du maquis.
Plongé avec Joseph dans l'ambiance poisseuse de méfiance et de paranoïa justifiée dans une petite ville de province du sud de la France occupée. Les murs ont des oreilles, on ne sait pas vraiment qui est qui, ni qui dénonce qui. L'époque dangereuse est à la prudence. car les nazis n'auraient pas pu aussi bien contrôler le pays sans le zèle de délateurs et de collaborateurs français, parmi lesquels les miliciens, ramassis de brutes fascistes et de voyous qui se sont illustrés dans le crime.
Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, à consacrer mes forces à faire triompher la révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée.
On avait peur de ces gens-là. J'y pense toujours, et même maintenant, on est toujours sur la réserve. Mais même en tant que copain, on ne discutait pas. Parce que moi, ici, dans le quartier, autour de l'église, on avait des familles de miliciens. Cette grande maison, au bout de la rue, là, il y en avait des miliciens, vous voyez. Mais on se méfiait carrément du voisin, parce que nous, on a eu des miliciens, je vous dis, c'était des personnes qui étaient arrogantes aussi. Hein. Puis ils se croyaient tout permis aussi. Hein. Mon père faisait le paysan, une employée. C'était la fille d'un milicien, et c'était une gamine qui avait à peu près 16 ou 17 ans, mais vous ne pouvez pas discuter de politique ou par exemple des avancées alliées, n'importe quoi.
Est-ce que vous saviez des choses de ce qui se passait
Moi, je sais que j'entendais discuter bien souvent, c'était ma mère et mon père, vous voyez, ou avec mes oncles, mais vous savez, à mon âge, je ne m'en intéressais pas. Ici, les maquis avaient des émetteurs, hein. De bouche à oreille, ils propageaient les nouvelles quand il y avait un débarquement ou le recul des Allemands ou s'ils avançaient.
Et donc vous, gamin,
on était insouciants. Ah. Je vous le dis franchement, on avait les Allemands ici en occupation. Nous avions le couvre-feu.
C'était à partir de quelle heure ?
8-9 heures, c'était. Je suis né dans le quartier. C'était un quartier cosmopolite. La moitié d'ici, c'est espagnol, la moitié basse, c'est plutôt italien. Il y avait 7 jeunes filles, d'origine espagnole, c'est tout. Nous, on était 7 ou 8 copains. Le frère d'une jeune fille qui était accordoniste, même avec les Allemands, dans une maison beaucoup plus bas, on faisait le bal clandestin. C'était les jeunes filles qui nous apprenaient à danser.
C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, c'est la Java bleue.
On n'avait pas peur des Allemands, même avec le couvre-feu. Des fois, on se faisait cavaler derrière, mais c'est pas... Les Allemands qu'on a eus à Sorgue, je pense que c'était déjà une vieille garde. Si, on a eu des SS, mais enfin, ça a été la vieille garde qu'on avait.
Les Allemands de la Wehrmacht qui étaient cantonnés si. Ici, c'était plutôt des papas ou
ouais,
des...
Oui, oui. Il fallait s'en méfier, hein. Quand il y a eu le bombardement d'Avignon avec les copains, il y avait certains pompiers de Sorgue. On était sur la place de la mairie, ils nous ont chargés dans des camions pour aller faire le déblaiement des rotondes et le boulevard Cicidar qui avait été rasé par les bombardiers américains. On ne nous a pas demandé notre avis, hein. Ils nous ont chargés sur des camions et on est allés là-bas déblayer, oui, et on était surveillés par les. Ça me donne la vermache.
Voilà pour l'ambiance d'une petite ville de province sous l'occupe. On en revient maintenant à notre histoire de train fantôme et à cette extraordinaire procession de plus de 700 prisonniers et prisonnières dépenaillés que ce 18 août 44, Charles et Joseph ont vu s'écouler sur la Nationale 7 qui traverse Sorgue. On sort de chez Joseph pour revenir avec lui à l'endroit même où il était ce fameux 18 août 44. On est au moment de cet enregistrement en août 2014, 70 ans après les faits. On part donc du croisement des rues Ducré et Durand dans le vieux Sorgue.
Et là, au bout de la rue Durand, donc qui est une jolie petite rue provençale, on arrive sur la Nationale 7.
Tout a été modifié, replanté. Mais à cette époque-là, elle était ombragée par des platanes. J'étais ici, carrément là, à l'ombre des platanes. Les fameux prisonniers sont arrivés par le nord. On prenait avec les copains le frêle, on regardait pas ces voitures, ce qui passait. Et d'un coup, on a entendu une rumeur là. Et au virage là-bas, on voit déboucher une troupe, elle tenait toute la route et encadrée par des Allemands armés. Nous, on n'a pas bougé, on regardait ça. Quand ils sont arrivés ici, les Allemands ont commencé à crier, nous faire housse tous. Mes copains sont partis chez eux et moi, je suis rentré chez mes parents. Là. Mais je suis resté sur le pas de la porte. Il y avait une porte à mouche, je suis resté là. Les prisonniers, je leur ai pas, ils étaient là-dedans. Et alors, j'ai vu le défilé de chez moi. De là, porte entrebâillée, j'ai vu passer tous les prisonniers. Je l'ai dit à mon père, d'ailleurs, j'ai dit, bon Dieu, papa, regarde ce qui passe là. Ils tenaient toute la route. On aurait dit des bagnards. Ils étaient même pas rasés, les bonhommes, on les voyait. Ils faisaient pitié même à les voir. Il y en avait, vous voyez, qui étaient vraiment sales. C'était un peu des guenilles qu'ils avaient. Hein. Je suis resté chez mes parents. Bon, on est resté sur le pas de la porte. Moi et une de mes sœurs, d'un coup, qui je vois arriver, un bonhomme alors, sale, barbu. Il était affolé et il dit « Cachez-moi, cachez-moi, je viens de m'évader, mais on ne savait pas d'où. » Mon père était en train de bricoler dans la cour, ma mère dans la cuisine. Et il dit « Cachez-moi, cachez-moi. » On l'a fait rentrer comme dans la cuisine. J'appelle mon père. « Papa, il y a un bonhomme là qui demande qu'on le cache, il m'a dit « fais le rentrer ». Mais en méfiance. Et quand il le voit, le bonhomme parlait très bien le français, alors mon père, quand il le voit comme ça, il a dit « bon ». Il a sorti le rasoir, il a fait raser, laver, on lui a donné à manger et il me dit « prépare le vélo de ta mère, lève la plaque d'un homme », parce qu'à ce moment-là, il y avait plaque obligatoire. Ce que je fais, et il m'a dit « tu vas le mener à la campagne, toi tu es jeune, tu risques rien ». Ce prisonnier s'appelait Willy von Fischer. C'était un bijoutier, il avait été arrêté du côté de Bordeaux. Il avait été sur Paris, il avait fui Paris par quand les Allemands ont occupé. Puis après, bon, il est venu sur la zone libre. Puis après, ça a été occupé, c'est là qu'il a été arrêté. J'ai levé la plaque du vélo de ma mère et mon père lui a dit « Écoutez, vous avez qu'à le suivre à peu près 20 mètres derrière. » On a pris la nationale. Et mon père m'avait dit, fais attention, au pont, il y a les Allemands, ils gardaient le pont. Avec le bonhomme, il m'a suivi, mais quand on a passé le pont, d'un coup, je l'ai vu passer comme une flèche devant moi. C'est qu'il a pris peur quand il a vu les Allemands. Puis je l'ai rattrapé et je l'ai mené là-bas. Le soir, je suis allé porter à manger. Je ne l'ai pas vu tous les jours, mais presque, vous voyez, parce que là-bas, il était caché, tu vois. Il y avait un voisin, hein, c'est un épinard qui faisait partie des résistants de Sorgue, vous voyez, qui s'en occupait. Et ce bonhomme a fait la libération de Sorgue. Il a été armé par le Machiavel. Et puis un beau jour, il a disparu. Je ne l'ai plus vu. Mais il a mangé, je crois, 3 ou 4 jours chez mes parents. Oui.
Vos parents, ils ont pris, et vous, tout le monde a pris un risque énorme.
Moi, je peux vous dire que ça.
Alors, vous m'avez sorti un petit diplôme qui est encadré. 6 juillet 2006, numéro 17-286, inscription dans le livre d'or du mémorial de la communauté juive de France en tant que gardien de la vie de Monsieur Joseph Cortés y Marti, c'est vous, pour l'action et le service rendu à des personnes juives en situation de danger, à contribuer au péril de sa vie, à soustraire et à cacher des personnes juives sur le chemin de la déportation vers les camps de la mort. Vous êtes injuste.
Ça a été M. Silve et Maître Dreyfus qui étaient à Paris. Ils ont fait des pieds et des mains pour que j'ai cette récompense. Vous voyez en quelle année ça m'a été remis ?
2006. Vous, il y a un malheureux qui est venu frapper à votre porte.
Non, il fallait le faire. Du moment que c'était un prisonnier allemand, il fallait... Patriote, moi, écoutez, ça sera recommencé, je ferai la même chose.
Ce monsieur que vous avez sauvé... Il parlait très bien le français,
ah,
vous
oui,
disiez
oui.
Bien qu'il soit autrichien. S'il avait eu un accent de...
Ça serait été pareil, mais même, oui, il parlait bien français. Mais la première nuit qu'il a passée, il a été gardé par M. Pinat, avait armé derrière la porte, vous voyez. Il fallait se méfier quand même. Oh, c'était la débandade allemande, hein. Il y avait des miliciens. Vous savez que j'ai rien dit à mes copains. Je leur ai jamais dit ce que j'avais fait. du 17 jusqu'au 25, on a eu quand même les défilés allemands sans arrêt, là, vous voyez. Même pour les Allemands, ça a été affreux de les voir partir comme ça. Ils volaient jusqu'à des poussettes de bébés, alors c'est pour vous dire.
Pour la débâcle.
Une fois en revenant, j'étais au milieu du pont, ils commençaient à me crier, halte, je suis parti de suite en bicyclette, je suis revenu par la rue, là. Sûrement qu'ils voulaient me voler la bicyclette, hein.
Ils volaient jusqu'à même des poussettes de bébés pour mettre leur bric-à-brac.
Mais c'est véridique.
Charles Tessier, lui, il s'est fait voler son vélo par un Allemand.
Oui, mais moi, j'ai failli me le faire voler quand je suis arrivé en vitesse. J'ai dit à mon père, papa, on veut me voler le vélo. Moi, de suite, j'ai pensé ça quand le bonhomme vous crie halte.
Vous l'avez dit plusieurs fois, dans le quartier, donc il y avait des miliciens. À la libération de Sorgues, ça a dû chauffer pour eux.
En principe, ces miliciens, ils sont presque tous partis, vous voyez. Mais le plus que ça a chauffé, ça a été sur des bonnes femmes qui avaient marché avec les Allemands, vous voyez.
Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse. À qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus.
Vous connaissez l'ancienne mairie de Sorgues ? Eh bien, il est rasé, il est exposé sur le balcon. Hein. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux aussi. Je l'ai vu tondre, oui, oui. Ce sont des femmes que, bien souvent, leur mari était prisonnier, vous voyez, mais on les a simplement humiliées, vous voyez, en les tondant. Hein. Et des golubés. Elles en ont entendu, hein, je peux vous dire que ça, de ça le pute, enfin tout ce qu'on veut, hein, collaboratrice. Hein.
Par contre, les miliciens, ils s'étaient fait la malle.
Oui, je me souviens, ils avaient un car qui avait stationné sur la Nationale, ils en ont rattrapé en dessous de Montélimar, là, vous voyez. Il y a eu des règlements de compte ici, sur Sorgues, c'était une gendarmerie. Il avait remis encore un évadé aux Allemands, vous voyez. À la libération, il a été chargé sur une camionnette et il a disparu. Hein.
De ces miliciens qui étaient là, ils ne sont plus jamais revenus sur Sorgues.
Non, je sais qu'il y en avait qui sont partis sur Lyon et j'ai su par la suite qu'ils n'avaient pas été inquiétés.
À ce stade du récit, il est temps de rendre à nouveau hommage à un homme disparu en 2011, Robert Silve, citoyen lambda, passionné d'histoire et de généalogie dont on va souvent parler au cours de cette saga. Au début des années 90, Robert Silve et son épouse Edith sont les premiers à œuvrer avec acharnement à la résurrection de l'histoire trop longtemps oubliée du train fantôme. Et au-delà des tristes faits de cette odyssée, c'est aussi ça qui nous intéresse. Est-ce que les faits et la mémoire deviennent toujours de l'histoire? Si une histoire s'écrit, qui l'écrit? Comment et combien de temps après? On en parle avec Joseph, témoin et acteur silencieux de l'histoire, mais qui a mis près d'un demi-siècle à en parler, et encore, après que Robert Silve lui ait tiré les vers du nez.
Avec M. Silve, on a fait des conférences dans les lycées, collèges, même en primaire, sur Avignon, sur Cavaillon, même sur Sorgues. Sur la fin, je disais... Toutes les fois que j'attaquais le récit, je ne pouvais plus parler. Alors j'ai dit, bon, pour moi, ça devient pénible. Puis alors, bon, après, j'ai perdu ma femme. Alors après, j'ai dit, oh, j'arrête. Enfin, je fais toujours partie de l'amicale quand même. Hein.
Dites-moi, Joseph, vous qui êtes pourtant au cœur de cette histoire avec votre père, avec vos parents, quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois l'expression « train fantôme » ?
Quand M. Silve s'est présenté chez moi, il y a 20 ans, M. Silve, je le connaissais depuis X temps, moi. Bonjour, il se présente et il m'a dit, Joseph, on est en train d'imprimer le livre du train fantôme, là. Il commence à me raconter sur l'histoire du train fantôme. Mes souvenirs se sont réveillés.
Ah, parce que vous aviez oublié toute cette histoire depuis soit...
Non, je n'avais pas oublié, mais personne n'en parlait. Il a fallu que M. Silve... qui s'occupe beaucoup aux histoires anciennes, réveille cette histoire-là. De suite, lui m'a fait un reproche. Parce que ça avait paru sur les journaux. Il cherchait des témoins de cette histoire. Je ne me suis pas manifesté. J'ai dit, qu'est-ce qu'on ressort encore ces histoires anciennes-là? Et comme je n'aime pas trop me mettre en avant aussi, d'ailleurs, j'ai dit, mais Robert, moi j'en ai sorti un de Sorgues-là. Et j'ai raconté l'histoire.
Et Robert, il le savait que vous aviez sorti un gars de ça?
C'est moi qui lui ai appris, et par recoupement, pour certifier cette histoire. Il y a deux témoins qui l'ont témoigné, ça, parce que même pour se remettre ça, il a fallu des témoins, vous voyez.
Là, vous êtes en train de montrer le diplôme de juste, il faut des témoignages écrits.
Il faut des témoignages écrits par les témoins qui savaient ce que j'avais fait. Voilà, et voilà, c'est parti comme ça. Et je vais vous dire, je vais jamais me mettre en avant. Vous avez vu, j'étais en retrait.
Oui.
Et bien, un ancien conseiller municipal de M. Milon, il m'a dit, Jo, ta place, elle est devant, là-bas. Vous voyez que j'y vais jamais devant, moi. Parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais il y en a, pas tous, mais certains vont devant. Vraiment, ils n'ont aucune participation, vous voyez. C'est des gens, ils n'étaient même pas nés à ce moment-là. Mais quand il y a une manifestation comme ça, vous voyez, moi je dis franchement, c'est un bien hein, qu'ils viennent participer. Parce qu'en principe, ils adhèrent, tout. Moi je dis c'est un bien. Mais ils y vont beaucoup pour la photo aussi. Mais il y en a qui aiment beaucoup la photo.
Une chose qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a certaines histoires qui dorment pendant 50-60 ans et qui ressurgissent comme un diable de leur boîte.
Mais pourquoi? On a gardé cet esprit de l'occupation qu'il fallait se taire. Pendant l'occupation, il fallait se méfier du voisin. C'est resté dans cet esprit même après la guerre. C'est pour ça que c'est resté si longtemps dans l'oubli. Moi, je pense que c'était l'esprit de la guerre, hein, de l'occupation. Tu pouvais rien dire, hein. Le moindre mot de travers. À ce moment-là, c'était l'internement ou le camp de concentration, n'importe quoi. On a su tout ça après. Hein. La guerre, l'occupation qui nous faisait taire. Hein.
Après la libération, les gens ont gardé le pli.
Après la guerre, en principe, ça a été des bonhommes de notre âge, puisqu'il y en avait deux comme moi, vous voyez, qui avaient 14 ans à ce moment-là. Ils n'ont jamais parlé non plus. Ils ont su l'histoire. Quand il y a lu le fameux bouquin, c'est un fantôme. Il a fallu qu'un bonhomme comme Robert Silva commence à chercher, vous voyez. Il faisait un peu l'historien, vous voyez. Et c'est grâce à lui. Si j'aurais pas eu lui, je suis sûr que c'était carrément dans l'oubli. Hein.
Et même vos petits-enfants n'auraient pas su?
Si, mes petits-enfants, petit à petit, vous voyez, d'abord ça a été sur ma fille, une quinzaine d'années, je vous dis, quand mon petit-fils venait manger avec ma femme, il nous demandait des histoires de la guerre, comment ça s'était passé, si là, voilà, qu'il était intéressé. Et c'est là que, petit à petit, on a sorti cette histoire. Et alors, quand il a sorti le livre du temps fantôme, automatiquement, c'est là qu'il m'a posé de plus en plus de questions.
Et voilà, les amis, c'est bientôt la fin du deuxième chapitre de cette saga du train fantôme, enregistré en 2014 et qui nous laisse avec ces questions. Qui étaient ces plus de 700 malheureux et malheureuses que Charles et Joseph ont vu traverser leur petite ville? D'où venaient ces gens? Où les a-t-on emmenés? Pourquoi cette histoire a-t-elle dormi pendant près d'un demi-siècle avant de ressurgir au début des années 90 grâce au travail des fondateurs de l'Amicale du Train Fantôme, Robert et Edith Silve, Charles et Jeannine Tessier? Vous le découvrirez bientôt avec la suite de cette terrible et incroyable odyssée. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, polymixetlavoixoff.com. Et avant de nous quitter, nous aurons une pensée pour Charles et Joseph qui ne sont désormais plus de ce monde. Charles est parti en 2020 et Joseph en 2022. Et c'est lui, Joseph, qui aura le dernier mot de cette émission.
Depuis que je suis né, de partout, de par le monde, je vois de guerres de partout, des massacres, des gens qui crèvent de faim, ça me fait mal au cœur. Je dis que c'est inadmissible. S'il y aurait un bon Dieu, franchement, on n'aurait pas tous ces désastres, ces guerres qu'on a dans le monde, c'est pas vrai. Pourtant, je suis catholique, je suis baptisé, je suis tout. On fomente ces guerres, mais bon Dieu, tout le monde les armes. Si alors on n'aurait pas des armes, on ne pourrait pas se battre.